Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Le Guay.
C'est bon. Dans la chronique des idées que nous faisons au fur et à mesure des semaines, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre d'Alain Bentolila qui s'appelle « Le verbe contre la barbarie ». Alors d'abord, qui est Bentolila ? Il est d'une part professeur de linguistique à Paris 5 Sorbonne. Il est conseiller scientifique de l'Observatoire national de la lecture. Et dans sa partie, disons, sérieuse, stricto sensu professionnelle, il est l'auteur du Becherel numéro 3 sur la grammaire pour tous et du Becherel numéro 2, l'orthographe pour tous. Mais de l'autre côté de lui-même, il y a un individu engagé qui combat l'illettrisme. C'est ainsi qu'il est le fondateur du réseau des observatoires de la lecture qui fédère 800 écoles en France et qu'il est conseiller scientifique de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et cette deuxième activité ou ce deuxième aspect de lui-même a donné l'occasion d'un certain nombre de livres et en particulier en 1996 de l'illettrisme en général et de l'école en particulier chez Odile Jacob qui a été couronné par le Grand Prix de l'Académie française. Sans oublier deux livres plus récents et qui vont susciter toute notre attention. Le premier s'appelle « Tout sur l'école », d'une part, en 2004, et le deuxième, qui vient de sortir, début 2007, « Le verbe contre la barbarie ». Voilà. Alors, débutons, si vous voulez, pour bien comprendre ce que dit Bentolila, par une scène de la vie quotidienne, ou une scène ordinaire de la vie des professeurs en ZEP, telle qu'elle est racontée par Bentolila lui-même. Donc, un professeur de français, jeune, une femme, lit un livre de Stendhal, Du rouge et le noir. Et Bentolila continue son récit en disant « Le professeur lit le texte. Elle lit particulièrement bien, faisant bien sentir les hésitations, les silences, les non-dits. De temps en temps, elle donne, sans interrompre indûment sa lecture, le sens d'un mot ou d'une expression un peu rare. Et les élèves écoutent, du moins certains d'entre eux écoutent, ils écoutent certains passages dignes de leur attention. Elle arrive au bout du texte, lève les yeux sur ses élèves, elle attend, plein d'espoir. Après un long silence, l'un d'eux se décide. « Dites-moi, madame, est-ce que vous croyez qu'il va la niquer ?» Cette question est posée sans provocation particulière, elle manifeste une interrogation sincère. Quand on y réfléchit, d'ailleurs, elle n'est pas dépourvue de pertinence. Le professeur est cependant un peu déstabilisé. « La question n'est pas là, » dit-elle. « Comment avez-vous trouvé ce texte de Stendhal ?» Et ainsi, chacun va commencer à commenter ce texte à sa façon, avec des considérations sur, je cite, « les meufs, les femmes mariées », et finalement, l'un des élèves finira en disant « De toute façon, c'est toutes des putes. » Debout, appuyé sur son bureau, continue Bentolila, le professeur est en plein désarroi. Ses yeux écarquillés vont d'un élève à l'autre, incapable d'endiguer le flot d'anecdotes et d'allégations qui l'ont submergé. Alors, comme on sonne la retraite, elle lâche « ça suffit, tout ça n'a rien à voir, prenez votre livre de français page 43, on va faire le schéma narratif ». Que conclure, pour introduire notre propos, de cette petite scène ? D'une part, mettons en évidence la bonne volonté des professeurs qui, pour Bentolila, n'est pas en cause. Deuxièmement, le hiatus très fort, la séparation très forte entre les mots employés par les élèves eux-mêmes et ceux de la littérature, de Stendhal en l'occurrence. Troisième conclusion, cette littérature est rabattue d'une certaine façon sur le monde quotidien, sur le monde tel que les élèves le vivent. Et donc, il y a une difficulté, une grande difficulté, à quitter ce monde pour un autre. Et quitter ce monde pour un autre, n'est-ce pas le propre de la littérature, qui transpose, qui permet de s'abstraire. Et donc, la littérature, clairement, dans cette scène, et c'est ce que nous verrons dans le reste de la pensée de Bentolila, ne joue plus sa fonction d'apprendre une langue, d'apprendre des codes, d'analyser des comportements qui vont permettre aux uns et aux autres de mieux se comprendre, de s'éduquer, de se mettre en ordre. Dernière conclusion, le fameux schéma narratif. On voit bien que face à cette impuissance du professeur et cette incompréhension des élèves, le professeur se rabat sur la solution la plus facile et la plus fausse, d'une certaine façon, qui est celle de l'éducation nationale aujourd'hui, celle du schéma narratif, qui évite d'aller creuser plus avant ces différentes situations d'échec. Quelles sont-elles, ces situations d'échec ? La littérature est devenue, pour certains, une langue étrangère. Les a priori des élèves sont trop puissants et donc ils n'arrivent pas, les élèves, à se quitter eux-mêmes, à quitter ces a priori. Ils n'arrivent plus, et c'est ça la difficulté de l'école aujourd'hui, ils n'arrivent plus à considérer qu'il y a à l'école quelque chose de sacré, qu'il y a dans l'école et dans la littérature quelque chose de sacré. C'est-à-dire quelque chose, c'est ça le sacré, où on se quitte soi-même avant d'entrer dans un autre espace qui permet de mieux se retrouver. Et cet échec, il est aussi celui d'une envie d'apprendre, de se mettre à l'école de textes de référence qui permettent de mieux se comprendre. Mais pour Bentolila, le pire n'est pas là. Il est, et c'est ça son constat depuis quelques années, dans l'absence de maîtrise de la langue. L'absence de maîtrise de la langue, c'est-à-dire celle du maniement des mots, de la capacité à pouvoir, par des expressions ou des mises en phrase, dire qui l'on est. Et qui dit dire, dit se dire, se mettre en mots, se mettre en situation. Et d'une certaine façon, c'est ça la culture, c'est ça la littérature, c'est ça ce que la littérature nous apprend, être tout à la fois soi-même et un autre. Et pour Bentolila, ce constat, cette impuissance, cette incapacité à pouvoir jouer pleinement ce rôle éducatif est sans appel. Pour lui, l'école a connu en 40 ans une massification évidente, mais en même temps, elle n'a pas su s'adapter, elle n'a pas su se transformer, elle n'a pas su se mettre en situation de relever les deux défis importants qui sont toujours ceux de l'école et qui le sont encore aujourd'hui. D'une part, la maîtrise de la langue, et deuxièmement, cette démocratisation de l'école, cette fameuse mixité scolaire. Alors, revenons au constat. Bentolila nous dit clairement que un enfant sur 10 sort de l'école incapable de maîtriser la langue. 10% des élèves, donc, sont en échec linguistique. Et 15% des élèves de 6e ont des difficultés de lecture. Alors, on dit 15%, comme ça, c'est un chiffre. Bon. Mais on peut dire qu'il y a 400 000 élèves qui accèdent au collège sans avoir une assurance forte de la lecture et de l'écriture, qui sont donc en fragilité, en insécurité linguistique. Et cette insécurité conduit ou peut conduire, d'une part, à un échec scolaire et, derrière, à un échec à la fois professionnel et civique. Et donc, cette absence de maîtrise conduit à l'exclusion, à la marginalisation, à toutes ces difficultés relatives à l'imprécision du vocabulaire qui ne font que renforcer les insécurités des uns et des autres. Alors, Alain Bentolila distingue ceux qui sont pauvres du langage et ceux qui sont nantis. Et donc, il voit là, dans cette différence entre cette pauvreté de la maîtrise et cette pauvreté du vocabulaire et ceux qui sont plutôt en abondance, en maîtrise, il voit là le premier signe d'une inégalité de ce pouvoir linguistique. Pour lui, sur toujours les éléments du constat, nous vivons dans ce qu'il appelle un décor éducatif. Un décor éducatif, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît en apparence comme cela rassurant, mais qui en réalité est rempli de mensonges. Le premier mensonge, c'est que l'école se ment à elle-même en ne remplissant pas complètement son office, et son premier office étant celui de la maîtrise de la langue. Et l'école ment aussi, nous dit Bentolila, aux élèves, en ceci que l'école ne donne pas, ne permet pas aux élèves d'acquérir cette sécurité linguistique, cette maîtrise du langage absolument indispensable. Et donc, pour lui, il y a, ce que je disais juste avant, une insécurité linguistique. Une insécurité linguistique qui vient de deux causes, de deux illusions fortes. D'une part, cette manière de décréter par le haut, par les ministres, par les directives, une démocratisation qui en fait n'existe pas, Et deuxième illusion et deuxième facteur qui aggrave ce décor éducatif, ce rétrécissement, cette volonté de certains de rétrécir la langue et de rétrécir la maîtrise de la littérature pour réduire les inégalités. Ce sont effectivement les enfants de Bourdieu qui considèrent que la langue est un vecteur d'inégalités. Et donc, si on réduit la prétention de la littérature ou si on réduit la maîtrise du vocabulaire, à ce moment-là, on va se retrouver avec des inégalités moins fortes. D'où cette insécurité linguistique. Alors, la question que pose Bentolila, c'est pourquoi cette insécurité linguistique ? D'où vient-elle ? Alors certes, on a vu, il y a les éléments du défaut de l'école, mais il y a aussi des éléments relatifs à la médiation scolaire. Celle-ci s'affaiblit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la médiation scolaire s'affaiblisse ? Pour lui, Bentolila, quand on dit qu'il y a une langue maternelle, on ne dit pas seulement que la langue de l'enfant est celle de la mère, cela veut dire surtout que cette langue est apprise par la mère, que cette médiation est indispensable pour l'acquisition du langage. Or, précise Bentolila, être parent, c'est offrir à ses enfants, par le moyen du verbe, de la littérature, de l'école, etc., apprendre aux enfants à pouvoir se situer dans le monde, à avoir une relation au monde. Et donc, il importe, c'est ça l'éducation, que l'enfant devienne un homme de parole, hein, qu'il habite sa langue, qu'il puisse, grâce à sa langue, nommer les choses, qu'il puisse, grâce à cette nomination, se situer dans le monde, et en se situant dans le monde, qu'il puisse tisser des liens. Et tous ces éléments-là, de maîtrise de son environnement, de socialisation avec les uns et avec les autres, permet à l'individu de domestiquer sa violence. Et là, le lien est très clair pour lui entre cette insécurité linguistique, cette absence de situation dans le monde, et ce passage à l'acte. Pour lui, l'insécurité linguistique renforce les éléments de violence, parce que l'individu n'est pas capable de mettre en mots sa pensée, de mettre de l'ordre dans sa pensée, et donc, à ce moment-là, dit-il, les coups viennent à la place des mots. Il dit, lorsqu'on ne peut pas s'inscrire pacifiquement sur l'intelligence des autres, la seule façon d'exister, c'est de laisser physiquement des traces. D'où l'idée des mots ou des traces. Et donc, l'absence de maîtrise des mots suppose que, à ce moment-là, les coups puissent prendre, la violence puisse prendre le dessus. Alors, quels sont les ennemis de cette école ? Et ils sont nombreux. Bentolila cite, en particulier dans Tout sur l'école, la télévision, qui rend de plus en plus réfractaire à la lecture, à ce temps de la patience, de l'attention. Il y a aussi Internet. Un enfant européen passe entre 7 et 10 heures par semaine devant le net. Et puis, la conséquence de tout cela, et ce que nous avons vu dans notre petite scène du début, c'est aussi ce repli communautaire, ce repli sur soi, qui permet de ne pas se lancer dans l'aventure de la littérature et de la culture pour aller vers autre chose que soi-même. Et donc le repli sur soi, le repli communautaire, est un moyen de passer outre cette insécurité linguistique qui est mal ressentie. Alors, quelle solution possible ? Que pouvons-nous faire ? Qu'est-ce que la société sont capables de faire ? Bentolila distingue deux conceptions qui, pour lui, sont idéologiques de l'école. Il y a, disons, les puristes, ceux qui sont fidèles à la tradition de l'école d'avant, celle qui permettait d'instiller aux individus, de leur donner le goût des beaux textes et de la langue. Bon, et que ce goût du texte et ce goût de la langue suffirait à entraîner tout le monde. Mais pour lui, cette conception de certains puristes, et je ne dis pas de tous, mais de certains puristes, fait l'impasse sur sans doute un quart des élèves qui pourraient être dans cette conception d'antan et qui marchait sans doute autrefois, mais qui n'est sans doute plus adaptée à celle d'aujourd'hui, qui laisserait de côté donc un quart des élèves. Et puis il y a surtout là, celle qui est, je dirais, la conception dominante, qui est celle de la révolution culturel qu'il importerait de faire, pour, et donc certains sont prêts, et certains le font, d'abandonner la grammaire, d'abandonner le commerce avec la haute littérature, pour éviter, c'est ce que nous disions à propos de Bourdieu, pour éviter que l'école soit un instrument de la reproduction sociale. Le plus important pour cela, c'est que la reproduction sociale, que l'inégalité sociale soit réduite. Et donc, pour que cette reproduction sociale soit réduite au maximum et que ces inégalités soient diminuées autant que faire se peut, eh bien, il vaut mieux s'en référer, non pas à la langue, à la grammaire, à la littérature, mais à ce fameux schéma narratif, à tous ces éléments d'explication qui mettent les uns et les autres devant une même réalité ou une même pseudo-réalité, les faisant quitter le commerce des livres, de la littérature, des textes. Voilà. Et pour Bentolila, ces deux-là, donc, qui sont tous les deux dans leur conception extrémiste, ces deux-là ont tort. Il faut, dit-il, être certain que le goût de la langue n'est ni naturel ni spontané. Il ne faut pas croire que la spontanéité peut conduire les élèves à la langue. La langue et la littérature demandent de l'effort, demandent un effort sur soi-même et un effort demandé par les autres sur les enfants. D'une part, et deuxièmement, il faut que la langue soit offerte à tous, qu'elle soit l'affaire de tous, qu'elle ne soit pas réservée à quelques-uns. Pourquoi ? Parce que la grammaire, la maîtrise de la langue, la sécurité linguistique est un élément de libération intérieure. Et il dit « la grammaire est libératrice et non contraignante ». Alors, il faut savoir que Bentolila a remis en novembre 2006 un rapport au ministre de l'Éducation nationale sur la réforme de la grammaire. Son idée était que il importe désormais de ne plus faire de la grammaire au fil des textes, c'est-à-dire de la grammaire comme prétexte, à l'occasion des textes, mais qu'il y ait des leçons autonomes, adaptées, qui permettent de mettre en ordre la grammaire avant même que d'aborder les textes, d'une part, et donc cela supposait de remettre en valeur les fameuses leçons de grammaire. Je le cite, « La grammaire est plus qu'un simple encodage, elle est le grand metteur en scène des mots. » Alors comment effectivement évoluer sur le théâtre qui est le nôtre, hein, nous sommes à nous-mêmes un propre théâtre, comment évoluer sur ce théâtre sans avoir la maîtrise du vocabulaire et sans avoir la maîtrise de ce metteur en scène des mots qu'est la grammaire. Et en janvier 2007, Gilles de Robien, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé donc une réforme de la grammaire en introduisant, pour la rentrée, j'imagine, en introduisant 3 heures de grammaire par semaine, donc des cours autonomes pour les écoliers, et une réforme des mots de l'orthographe. Donc en revenir sans doute à l'idée simple de sujet, verbe, complément, telle que les choses ont pu être apprises autrefois. Voilà. Et que ces cours-là soient séparés de la littérature ou de l'étude des textes ou de l'étude des thèmes ou de l'étude des schémas narratifs. Alors, qu'en conclure de tout cela ? Il faut bien mesurer, me semble-t-il, l'importance de cette grammaire et l'importance surtout de la langue. Et il me semble que l'insécurité linguistique dont parle Bentolila est d'une certaine façon un effet de la barbarie. On peut dire que la barbarie, c'est une affaire de langue. Platon dit, et nous met en garde là-dessus, il nous dit que dans notre éducation, dans la païdéia, il importe de tirer l'âme de son barbare bourbier. Il faut donc tirer cette âme pour la faire accéder en haut. Alors, qu'est-ce que la barbarie pour Platon ? La barbarie, c'est un langage inarticulé de l'âme, et cette âme barbare, cette âme informelle, informée, enfin sans forme, manifeste une résistance vigoureuse à la forme, à la mise en forme. Voilà. Et donc, sortir, tirer l'âme de son bourbier barbare. Et c'est seulement, nous dit Platon, et nous dit toute l'éducation depuis Platon, c'est seulement grâce à un bon régime d'éducation que l'âme sera se soumettre à la discipline de la raison et, grâce à cette discipline de la raison, à maîtriser son chaos intérieur. Alors, sinon quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'il se passe, nous dit Platon, si effectivement cette maîtrise n'a pas lieu ? Eh bien, le chaos originel, enfin l'absence de mise en forme, prend le dessus et devient plus fort que la domestication de soi-même. Et donc, s'il n'y a pas de domestication de soi-même, il n'y a pas non plus domestication des rapports que l'on a avec les autres, donc aussi de la violence, et le ciment du monde, enfin la socialisation, la sociabilité, l'affection, enfin, ne peut pas à ce moment-là s'instaurer. Ça, c'est le premier élément de ma conclusion. Et le deuxième élément de ma conclusion, c'est de dire, distinguons toujours, et Bentolila est là pour nous le rappeler quand il pointe du doigt cette insécurité linguistique, distinguons toujours la communication de la culture. Alors la communication, c'est quoi ? La communication, c'est l'échange. Nous communiquons, l'échange, nous véhiculons de l'information. Voilà. Qui communique ? Ben, les premiers qui communiquent, ce sont les animaux. Hein, les animaux communiquent. Bon. Et l'apprentissage la culture, c'est un apprentissage, c'est une accumulation, c'est une transmission. Voilà. Et donc, l'homme est un individu de culture, certes aussi de communication, mais surtout de culture, quand il est capable d'accumuler du savoir, de transmettre ce savoir, et de transmettre ce savoir et cette expérience à ceux qui le suivent. Voilà. La question, la difficulté, c'est que nous vivons de plus en plus dans une société de communication, c'est presque une tarte à la crème, mais cette société de communication se fait un peu, beaucoup, passionnément, suivant les cas, au détriment d'une société de culture. Voilà. Donc il y a un défi à relever pour tout un chacun, qui est de faire de la langue une intelligence de soi, hein, de faire en sorte que la langue reste une intelligence sur le monde et sur soi, comme dit Kafka, un moyen de jeter des torches dans ses propres abîmes, et non quelque chose qui serait ravalé du seul côté de la communication. Donc quelque chose qui servirait uniquement à l'échange et à l'information, qui n'est pas la nature même de la langue pour nous. Voilà. Bentolila nous dit « Comprendre, c'est tenter de fabriquer de l'intime avec du conventionnel ». Voilà, comprendre, c'est tenter de fabriquer de l'intime avec du conventionnel. Et cette transformation-là, elle est au cœur de nos mécanismes culturels. Alors souhaitons, avec Bentolila et avec d'autres, que le conventionnel ne finira jamais par prendre le pas sur cette construction de soi, sur cette intimité, et que l'être de culture que nous sommes ne sera pas, ou le moins possible, complètement recouvert par l'être de communication que nous sommes aussi. Merci.